Extrait des chroniques du hors-temps, le projet Bunker, une arche pour la civilisation humaine. 1. Prévision du moment de l'attaque de la forêt sombre contre le système solaire. Prévision optimiste, 100 à 150 ans. Prévision moyenne, 50 à 80 ans. Prévision pessimiste, 10 à 30 ans après la diffusion des coordonnées dans la forêt sombre. Plan pour la survie de l'humanité envisagé sur 70 ans. 2. Nombre total d'individus à sauver. En considération du déclin de la natalité mondiale, de 6 à 800 millions dans 70 ans. 3. Prévision générale sur une attaque future de la forêt sombre. En s'appuyant sur les données recueillies lors de la destruction de l'étoile du système trisolarien, on avait pu établir un modèle mathématique d'une attaque similaire contre le Soleil. Les simulations réalisées grâce à ce modèle montraient que si le Soleil était frappé par une particule de lumière, les planètes telluriques situées à l'intérieur de l'orbite de Mars seraient toutes anéanties. Au début de l'explosion solaire, Mercure et Vénus seraient totalement vaporisées. La Terre, elle, conserverait une partie de sa masse ainsi que son aspect sphérique, mais sa surface serait rasée jusqu'à une profondeur de 500 km environ, soit toute la croûte terrestre et une partie du manteau. La surface de Mars serait quant à elle entamée sur une profondeur de 100 km. Un peu plus tard, la vitesse orbitale des planètes telluriques diminuerait à cause de la traînée produite par la matière éjectée lors de l'explosion du Soleil, et elles finiraient toutes par sombrer dans les restes du cœur de l'étoile. Le modèle mathématique montrait que la puissance de destruction d'une telle explosion solaire, conjuguée aux radiations et à l'éjection de matière solaire, était inversement proportionnelle au carré de la distance par rapport au Soleil. Plus un objet était distant du Soleil, plus l'intensité de cette force destructrice diminuait. Cela voulait dire que les planètes géantes gazeuses, plus éloignées, échapperaient à la destruction. Au début de l'attaque, la surface de Jupiter connaîtrait de violentes turbulences, mais sa structure globale resterait inchangée, de même que ses satellites. Saturne, Uranus et Neptune ne subiraient que des perturbations modérées, et leur structure serait également préservée. La matière solaire éjectée, une fois dispersée, aurait forcément une influence sur la vitesse orbitale des trois géantes gazeuses, mais dans la phase postérieure de l'attaque, elle formerait une nébuleuse spirale dont la vitesse angulaire serait la même que celle des planètes géantes gazeuses, ce qui ne provoquerait pas l'abaissement de leurs orbites. Ce dont on pouvait être sûr, c'était que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune survivraient à l'attaque de la forêt sombre. Cette prévision essentielle formait le principal fondement du projet Bunker. 4. Autre plan de survie de l'humanité abandonné. A. Le plan d'évasion stellaire, techniquement impossible. Dans le laps de temps estimé, l'humanité ne pourrait pas atteindre de telles capacités de voyage interstellaire. Les appareils qui permettraient à l'humanité de prendre la fuite pourraient à peine contenir 1/1000 de la population et, avant l'épuisement complet des combustibles et la dégradation des écosystèmes autorégénératifs, il était peu probable qu'une exoplanète habitable ait pu être trouvée. Ce plan ne permettant de sauver qu'une proportion infime de la population, il allait à l'encontre des valeurs morales fondamentales de la civilisation humaine, et il était politiquement inenvisageable, car il provoquerait des troubles immenses dans la société mondiale et, à terme, son effondrement total. B. Le plan de fuite lointaine. Taux de faisabilité très faible. Ce plan consistait à établir un nouveau lieu de résidence spatiale suffisamment éloigné du Soleil pour éviter les conséquences de son explosion. Selon les calculs tenant compte des techniques de protection des cités spatiales pouvant être développées dans un futur envisageable, la distance de sécurité minimale par rapport au Soleil était de 60 unités astronomiques, c'est-à-dire au-delà de la ceinture de Kuiper. À une telle distance, Les ressources étaient limitées et il serait ardu de trouver des matériaux susceptibles d'aider à la construction de cités spatiales. Toujours en raison du manque de ressources, même si on arrivait à créer des villes, leur occupation serait sans cesse confrontée à des carences. 5. Projet Bunker. Ce plan consistait à faire des quatre géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, des abris contre une explosion solaire provoquée par une attaque de la forêt sombre. L'idée était de construire des cités spatiales au niveau de la face cachée des quatre planètes qui accueilleraient l'ensemble de la population terrienne. Ces cités seraient établies à une distance proche des planètes, mais ne deviendraient pas leurs satellites. Elles suivraient une orbite héliosynchrone de manière à rester dans l'ombre des quatre planètes, qui constituerait donc un rempart en cas d'explosion du Soleil. Il était projeté de bâtir 50 cités spatiales, dont chacune pourrait accueillir environ 15 millions de personnes. Elles seraient réparties ainsi. 20 pour Jupiter, 20 pour Saturne, 4 pour Uranus et 6 pour Neptune. Les matériaux utilisés pour leur construction seraient collectés sur les quatre géantes et leurs satellites, ainsi que sur les anneaux de Saturne et de Neptune. 6. Défi technique posé par le projet Bunker. La plupart des technologies nécessaires pour la mise en place du plan Bunker étaient à la portée de l'humanité. Les flottes internationales avaient une solide expérience de la construction de cités spatiales et disposaient déjà de bases spatiales de grande envergure autour de Jupiter. Il demeurait certes quelques défis techniques, mais ceux-ci pourraient probablement être relevés pendant le temps de planification du projet. Parmi eux, le maintien de la position des cités spatiales. Étant donné que les villes ne seraient pas des satellites des quatre planètes, il faudrait donc installer des systèmes de propulsion susceptibles de neutraliser l'attraction gravitationnelle des planètes pour conserver en permanence la même distance entre cités et planètes. On avait initialement envisagé de situer ces stations spatiales au point de Lagrange L2 pour que les périodes orbitales des cités coïncident avec celles des géantes gazeuses. Mais on découvrit que les villes seraient alors trop loin des planètes pour bénéficier de leur protection. 7. La survie des humains dans le système solaire après une attaque de la forêt sombre. Après la destruction du Soleil, les cités spatiales dépendraient de l'énergie générée par la fusion nucléaire. Le système solaire serait dans un état de nébuleuse spirale et les rémanents de supernovas formés à la suite de cette catastrophe fourniraient une quantité presque inépuisable de combustible qui pourrait en outre être facilement recueillie. Il serait aussi possible de récupérer dans le noyau restant du Soleil de précieux combustibles et satisfaire ainsi les besoins énergétiques de l'humanité pour sa survie sur le long terme. Chaque cité spatiale disposerait de son propre Soleil artificiel, qui produirait une quantité d'énergie équivalente à celle produite avant l'attaque. Sur un plan énergétique, les approvisionnements seraient sensiblement plus grands que dans la période ayant précédé l'attaque. En effet, grâce au combustible de fusion offert par le système solaire, la consommation des cités spatiales n'équivaudrait qu'à 1 milliardième de Soleil. En ce sens, la destruction du Soleil constituerait même un progrès, en cela qu'elle mettrait un terme à l'énorme gaspillage des matériaux de fusion collectés dans le système solaire. L'océan, situé 160 km sous la surface d'Europe, l'un des satellites de Jupiter, permettrait un approvisionnement en eau appréciable. De fait, la quantité d'eau sur Europe, étant plus importante que sur la Terre, suffirait largement à satisfaire les besoins des cités. Il serait par ailleurs possible de trouver de l'eau dans la nébuleuse. Après l'attaque, lorsque la nébuleuse se serait stabilisée, les cités spatiales pourraient quitter les planètes leur servant de bunker et chercher des espaces de vie plus agréables ailleurs dans le système solaire. Elles auraient aussi intérêt à s'éloigner du plan de l'écliptique afin d'échapper à l'influence de la nébuleuse tout en se préservant la possibilité d'en exploiter les ressources. L'explosion solaire ayant anéanti les planètes telluriques, tous les gisements minéraux qui en étaient issus se retrouveraient dispersés dans la nébuleuse, et il ne serait pas difficile de pouvoir les recueillir. Dans ces conditions, on pourrait lancer des nouveaux chantiers de construction de cités spatiales. Les prévisions actuelles estimaient que la seule ressource limitée serait celle en eau, mais rien que sur Europe, l'océan permettrait de satisfaire les besoins de 100 cités ayant chacune une population de 100 à 200 millions d'habitants. Aussi, la nébuleuse du système solaire après l'attaque serait en mesure d'assurer le confort de plus de 10 milliards d'êtres humains, laissant en outre à la civilisation humaine un espace largement suffisant pour continuer à se développer. 8. Impact du projet Bunker sur la géopolitique internationale. Ce chantier qui consistait à créer un nouveau monde était d'une envergure sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et les plus grands obstacles auxquels il se confrontait n'étaient pas d'ordre technologique, mais politique. Le public s'inquiétait que le chantier des bunkers n'épuise toutes les ressources terrestres et fasse faire un bond en arrière à la politique et à l'économie des sociétés humaines, peut-être même jusqu'à aboutir à un deuxième grand ravin. Cependant, tant les flottes internationales que les Nations Unies étaient persuadées que ce genre de catastrophe serait évité. Le chantier était mené hors de la Terre et les matériaux utilisés seraient intégralement d'origine extraterrestre, principalement des satellites des quatre géantes gazeuses, ainsi que des anneaux de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Le chantier n'assécherait donc ni l'économie ni les ressources de la Terre. Au contraire, une fois que l'exploitation des ressources spatiales aurait atteint un certain seuil, elle pourra même donner de nouvelles impulsions à l'économie terrestre. 9. Plan d'action général du projet Bunker. Développer en 20 ans un ensemble d'infrastructures industrielles capables d'exploiter les ressources des géantes gazeuses et construire en 60 ans la totalité des cités spatiales. Les deux étapes connaîtraient une période de chevauchement de 10 ans. 10. À propos d'une deuxième attaque de la forêt sombre. Les effets macroscopiques d'une première attaque suffiraient à convaincre les observateurs lointains de la destruction de toute civilisation dans le système solaire. Dans le même temps, en raison de la disparition du Soleil, le système solaire ne posséderait plus de source d'énergie capable d'être mobilisée pour une attaque économique, au sens où l'entendait Intellectra. Il était par conséquent peu probable qu'une deuxième attaque de la forêt sombre intervienne à court terme. L'observation du système 187J3X1 après sa destruction n'avait en tout cas pas à ce jour fourni d'éléments allant dans ce sens. À l'approche du lancement du projet Bunker, on oubliait peu à peu Yun Tianming. Le travail de décryptage mené par le comité de renseignement et de décryptage se poursuivait toujours, mais ce n'était plus que l'une des nombreuses missions du Conseil de défense planétaire. Les espoirs d'extraire de réelles informations stratégiques des récits de Yun Tianming s'amenuisaient. Au sein du CRD, certains en vinrent même à soutenir que le rapport de Yun Tianming pointait dès le début dans la direction prise par le projet Bunker, s'appuyant sur plusieurs éléments qui corroboraient selon eux cette interprétation. Le parapluie, par exemple, qui avait très naturellement été interprété jusqu'ici comme une allusion à un système de défense encore inconnu. Quelqu'un suggéra que les billes de pierre accrochées aux embouts des baleines représentaient les planètes géantes gazeuses du système solaire. Mais seules 4 planètes pouvaient servir de bunker dans le système solaire. Yun Tianming n'avait certes pas fait mention du nombre de baleines, mais on imaginait difficilement qu'un parapluie n'ait pu en comporter que 4. Consciemment ou non, on n'y cherchait plus des réponses à des problématiques stratégiques réelles, mais un réconfort face au réel. Cependant, le travail de décryptage du rapport connut bientôt une avancée insoupçonnée. Ce jour-là, A.A. vint rendre visite à Chengxin. Elle ne suivait plus depuis longtemps Chengxin aux réunions du CRD et consacrait toute son énergie à raccorder les activités du groupe Halo au projet Bunker. L'établissement d'un nouveau monde en orbite de Jupiter représentait des perspectives presque illimitées pour une compagnie de construction spatiale. C'était d'ailleurs un heureux hasard que la compagnie de Chengxin se soit appelée Halo, quand on savait que c'était des anneaux de Jupiter qu'on extrairait une bonne partie des matériaux qui serviraient à construire les cités spatiales. « Je veux un savon !» déclara A.A. Chung-Sin l'ignora. Ses yeux ne quittèrent pas sa liseuse électronique et elle posa à A.A. une question sur la physique de la fusion. Depuis son réveil, elle s'employait à actualiser ses connaissances sur la science moderne. Rien qu'en ce qui concernait la technologie aérospatiale, la branche dans laquelle elle avait été formée, tout avait changé depuis l'ère commune. Aujourd'hui, même la plus petite capsule spatiale était propulsée grâce à la fusion nucléaire. Chung-Sin avait dû commencer par prendre connaissance des nouveaux progrès de la physique fondamentale, mais elle apprenait vite. En réalité, le fossé qui séparait son époque d'origine de celle-ci n'avait pas érigé de barrière infranchissable. Les dernières mises à jour importantes de la physique théorique dataient seulement du début de l'ère de la dissuasion. Avec suffisamment d'applications, la plupart des scientifiques et des ingénieurs issus de l'ère commune pouvaient très vite combler le retard pris dans leurs disciplines respectives. A.A. éteignit la liseuse de Chung-Sin. « Je veux un savon !»« Je n'ai pas de savon !»« Tu ne crois quand même pas que les savons ont les mêmes effets magiques que dans les contes, non ?» Chung-Sin lui disait en réalité ceci. « Quand vas-tu cesser de te comporter comme une enfant ?»«
Je sais, mais j'aime bien la mousse. J'ai envie de prendre un bain mousseux, comme la princesse. Je veux un savon !»
Les techniques de bain modernes ne produisaient plus de mousse. Savon et autres accessoires de bain avaient disparu des salles de bain un siècle plus tôt et il existait maintenant deux méthodes pour se laver. Les douches à ultrasons et les micro-nettoyeurs, des nanorobots invisibles à l'œil nu, solubles dans l'eau, qu'on pouvait aussi utiliser pour des douches sèches. Ils avaient la capacité de nettoyer instantanément la surface de la peau ou de n'importe quel objet. Chung-Sin finit par accéder au caprice d'A.A. et accepta d'aller acheter un savon. Quand Chung-Sin était morose, A.A. usait souvent de ce genre de fantaisie pour lui changer les idées. Devant la gigantesque forêt de la ville, elles réfléchirent un bon moment et parvinrent à la conclusion que le lieu où elles auraient le plus de chances de trouver un savon était un musée. Elles finirent par trouver un savon dans une salle exhibant des objets d'usage courant de l'ère commune, au sein d'un musée qui proposait une exposition sur l'histoire de la ville. La lumière était tamisée et les objets exposés dans les vitrines étaient éclairés par des projecteurs orientables. Tous dataient de l'ère commune. Appareils électroménagers, vêtements, meubles, en parfait état de conservation, sans aucune trace de poussière, ce qui leur donnait presque l'impression d'être neufs. Émotionnellement, Chung-Sin avait du mal à accepter que ces objets puissent être des reliques vieilles de deux siècles. En les observant, elle avait le sentiment qu'ils n'avaient jamais vraiment disparu, qu'ils étaient encore là la veille. Elle avait traversé d'innombrables épreuves depuis son premier réveil, mais tout paraissait encore comme dans un rêve. Son esprit vivait obstinément dans le passé. Le savon était exposé dans une vitrine de produits de nettoyage, en compagnie d'autres accessoires tels que du gel douche ou du liquide vaisselle. En observant ce savon translucide, Chung-Sin devina grâce au logo gravé à sa surface qu'il était de la marque Diaopai. Le savon était blanc, comme dans l'histoire. Le conservateur du musée commença par certifier que le savon était une antiquité précieuse et qu'il n'était pas à vendre. Puis il finit par céder et faire grimper son prix.
« Au prix où il coûte, on pourrait se payer une savonnerie !» glissa Chung-Sin à A.A.
« Une ?»«
Une entreprise de fabrication de savon. »
« Et après ? Ça fait un moment que je suis PDG de ton groupe. Tu pourrais quand même me faire un petit cadeau pour me remercier. Et qui sait, ça peut même être un bon investissement. »
Alors, elles achetèrent le savon. Chung-Sin avait indiqué à A.A. que si elle voulait vraiment prendre un bain moussant, il aurait mieux valu acheter un flacon de bain moussant. Mais A.A. avait insisté pour se servir d'un savon comme la princesse du conte. Le savon fut délicatement retiré de la vitrine. Le tenant dans la main, Chung Sin pouvait encore sentir son léger parfum. De retour à la maison, A-ha ne perdit pas une seconde pour ouvrir l'emballage sous vide, puis elle se rendit dans la salle de bain munie du savon. Elle ferma la porte et on entendit couler l'eau du bain. Chung Sin frappa à la porte.
« Tu ferais mieux de ne pas te laver avec. C'est de l'alcali. Ta peau n'est pas habituée, tu risques de te faire mal. »
A-ha ne répondit rien. Après un long moment, quand l'eau se fut arrêtée de couler, la porte s'ouvrit et Chung Sin vit A-ha encore tout habillé qui tenait une feuille de papier blanc dans la main.
« Tu saurais faire un bateau en origami ?»«
Cet art aussi s'est perdu, » demanda Chung Sin en prenant la feuille de papier.
« Forcément, il n'y a presque plus de papier de nos jours. »
Chung Sin s'assit et commença à plier sa feuille. Ses pensées vagabondèrent une nouvelle fois vers cet après-midi bruineux à l'université. Yun Tianming et elle étaient assis au bord du réservoir. Sous une brise légère, le voilier en origami s'était éloigné lentement à la surface de l'eau jusqu'à n'être plus qu'un petit point blanc dans le lointain. Elle repensa alors à la voile blanche à la fin du conte de Yun Tianming. A-ha prit le voilier des mains de Chung Sin et poussa un cri d'admiration. Puis elle demanda à Chung Sin de la suivre dans la salle de bain. Avec un petit couteau, elle découpa un minuscule morceau de savon et elle fit un trou à l'arrière du voilier dans lequel elle coinça le fragment de savon. Elle releva la tête et adressa un sourire mystérieux à Chung Sin. Puis elle déposa délicatement le voilier sur la surface tranquille de l'eau. Le voilier se déplaça de lui-même et gagna l'autre extrémité de la baignoire. Chung Sin comprit immédiatement la cause de ce phénomène. Une fois le savon dissous dans l'eau, il avait diminué la tension superficielle de l'eau à l'arrière du voilier, tandis que celle à l'avant était restée inchangée. Le bateau s'était ainsi retrouvé propulsé vers l'avant. Un éclair illumina subitement ses pensées. Dans ses yeux, la surface paisible de l'eau de la baignoire était devenue l'espace obscur, et le petit voilier en papier, un vaisseau naviguant à la vitesse de la lumière dans un néant sans fin. Aussitôt, un frisson lui parcourut le corps, la sécurité de Yun Tianming. Cette pensée fut comme une main agrippant violemment les cordes de son esprit, les empêchant de vibrer. Elle se força à détourner son regard du bateau et à faire de son mieux pour rester la plus naturelle et la plus indifférente possible au phénomène qui se présentait sous ses yeux. Le bateau avait déjà rejoint l'autre extrémité de la baignoire où il faisait du surplace. Elle tendit la main, le repêcha, l'agita pour le sécher et le jeta dans le lavabo. Elle se retint de le faire disparaître dans la cuvette des toilettes, décidant de ne pas le remettre à l'eau. C'était dangereux. Même si Chung Sin tendait à croire qu'il n'y avait déjà plus aucun intellectron dans le système solaire, la prudence restait de mise. Le regard d'A-ha croisa le sien. Leurs yeux étaient comme deux miroirs qui luisaient du même éclat d'excitation. Chung Sin tourna la tête, puis lâcha sans émotion. « Je n'ai plus envie de jouer. Si tu veux prendre un bain, vas-y. » Puis elle sortit de la salle de bain. A-ha la suivit. Elles se servirent un verre de vin rouge et commencèrent à papoter de tout et de rien. Tout d'abord de la future implication du groupe Halo dans le chantier du projet Bunker, puis de leurs souvenirs d'étudiantes à des siècles différents, et enfin de leur vie actuelle. A-ha demanda à Chung Sin pourquoi, maintenant qu'elle s'était faite à cette époque, elle n'essayait pas de trouver un homme à son goût. Chung Sin lui répondit qu'il lui était impossible d'avoir une vie ordinaire. Elle rétorqua à A-ha que son problème à elle, c'était qu'elle avait trop d'aventures. Elle pouvait naturellement inviter un de ses amants à venir ici, mais un seul à la fois. Elles enchaînèrent alors en bavardant de la mode et des loisirs des femmes à leurs deux époques respectives, leurs similitudes et leurs différences. Le langage n'était que le moyen par lequel elles donnaient libre cours à leur excitation. Elles n'osaient s'arrêter, de peur que le silence change leur joie en une terrible chimère. Enfin, lors d'une pause au milieu de cette conversation décousue, Chung Sin glissa un mot à voix basse. « Courbure ». Ce fut avec ses yeux qu'elle prononça le mot suivant. « Propulsion ?» A.A. hocha doucement la tête. Son regard disait « Oui, une propulsion par courbure. »